À Canalem, on aime l'été.
Allô, Anne-Laure.
Salut, Luc.
Bonjour, Jean-Sébastien.
Salut.
Anne-Laure qui a tout laissé sur le terrain hier, elle est vidée.
Yes. Elle est championne.
Ah, tout à fait. Non, elle est vidée, elle est heureuse. Comme.
100 000 Français.
On peut presque dire tout,
Québec,
ouais,
environ,
même tout un peuple.
Ouais.
Notre première invitée, c'est ça qu'elle disait. Elle dit c'est agréable de voir tout un peuple heureux le temps que ça dure.
Eh bien oui, ouais, moins 4 ans.
On 98, ça dure le temps que ça dure. Ouais. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est correct. Puis le sport peut rallier, puis ça c'est plaisant, il n'y a pas eu de casse. Vive le sport. Quand c'est bien joué, puis quand c'est bien festoyé. Là.
C'est un beau match.
Aujourd'hui, on va parler justement de la Coupe du Monde, de son aspect accessibilité. On va parler de services offerts par le CEMO Montérégie. On va parler également à un Croate, non pas du match d'hier, mais de 5 ans qu'il a passé dans un camp de réfugiés. Et il y a Emmanuel aussi qui vient faire son...
Emmanuel qui nous fait une chronique sur présence. la programmation neurolinguistique. Et puis tout de suite, Marina Lechêne, coordonnatrice pour L'Autre Marché.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, qui a un accent de championne également.
Alors Marina, en fait, on se demandait avec Luc la différence entre L'Autre Marché et les marchés publics à Montréal comme Jean Talon ou Atwater.
Eh bien, vraiment, notre particularité, c'est de faire des marchés éphémères. Nous, on va vraiment monter des marchés et démonter le marché dans la même journée. Donc, par exemple, au marché Angus, on arrive, on ferme la rue, on monte le marché, les producteurs arrivent, s'installent, on fait le rendez-vous avec les citoyens, et puis après, on démonte tout, et c'est comme si on n'avait pas été là. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un rendez-vous hebdomadaire entre les producteurs et les citoyens. Donc, c'est ça vraiment notre particularité des marchés éphémères, dans le fond.
Super. Et il y en a combien en tout?
Alors, L'Autre Marché, on a créé beaucoup au fur et à mesure des années. L'Autre Marché a été créé en 2008.
Ouais, déjà 10 ans. Hein?
Oui, 10 ans. Et d'ailleurs, on a fêté cette année les 10 ans du marché Angus parce que c'était...
C'était le premier? Ouais.
C'était le deuxième, en fait. Le tout premier, c'était le marché de Rosemère qui avait été un projet pilote. Et vu le succès, l'organisme L'Autre Marché a été fondé, le marché Angus a suivi. Donc ça c'était la 10e édition, enfin on est dans la 10e édition cette année. Et puis on a aussi le marché Prince Arthur qu'on a créé en 2015.
Le marché Prince Arthur, c'est tous les jeudis?
Oui, tous les jeudis.
Jusqu'au 4 octobre?
Et le marché Angus, c'est tous les vendredis jusqu'au 26 octobre.
Mm-hmm. Prince Arthur, j'imagine c'était plus facile parce que la rue est déjà fermée.
Oui, alors c'était plus facile, oui et non, parce que au début, on a fait un test avec la ville. Ça, c'était avant qu'ils fassent tous les travaux sur la rue Prince Arthur, qu'ils refassent la rue. Un test qui a été concluant. Mais après, donc il y a eu tous les travaux, donc on a été déménagé. Puis là, ça y est, on est installé sur la place. Ils ont créé comme une petite place polyvalente sur la rue Prince Arthur, où on peut être installé. Mais oui, le fait que ce soit piéton, c'est bien plus agréable, bien plus accessible.
Et il y a aussi deux marchés, donc, sur des sites, des résidences pour aînés.
Oui, on
c'est
a
possible.
Eu, oui, on a eu la demande, en fait, de résidences pour aînés, parce qu'il y en a beaucoup, déjà, elles sont assez loin des épiceries. C'est pas toutes les personnes aînées qui ont la possibilité de se déplacer, de prendre leur voiture et d'aller faire leur épicerie. Donc c'est vraiment, nous on se déplace sur place, on installe le marché, puis les producteurs viennent les rencontrer. Puis malgré tout, il y a des habitudes de consommation qui se créent et puis une bonne ambiance.
Et est-ce que vous faites attention justement au désert alimentaire quand vous décidez de vous installer quelque part?
Oui, ça c'est vraiment important. À la base, par exemple, le marché Angus, c'était le quartier, il y a 10 ans, il commençait tout juste à se développer. Donc justement, c'était plus ou moins un désert alimentaire. Pour la rue Prince Arthur aussi, sur la rue en elle-même, il n'y a pas d'épicerie. On a créé l'an dernier le marché du Vieux. Ça, c'était dans le cadre de la promenade Fleuve-Montagne, où donc c'était sur la rue McGill, place Dieuville, où sur place, en fait, il y a beaucoup de restaurants, mais il n'y a aucun commerce avec des produits de base, des fruits, des légumes, du pain. Et ça a eu beaucoup de succès, du coup, de pouvoir répondre à comme ça, une demande pour des produits de base. Après, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait aussi l'habitude de consommation qui se crée, qu'il faut qu'il y ait une réponse des citoyens. On a essayé le marché Griffinton pendant 2 années parce que c'est en plein développement, puis qu'il y a très peu il y avait peu au début de commerce avec des produits de base, mais
ça n'a pas fonctionné.
Ah ouais. Donc
Il faut peut-être réessayer.
Il faut savoir être au bon moment, au bon endroit. Ouais.
Mais justement, qu'est-ce qui détermine si ça fonctionne ou pas? Les chiffres à atteindre, est-ce que c'est en prorata du nombre de citoyens ou c'est un chiffre précis? Comment décidez-vous que, OK, ça vaut la peine?
Ah ben, ça se voit très, très rapidement et très facilement, dans le sens où si les gens sont en rendez-vous ou pas, et puis que les ventes des producteurs sont là.
Ouais.
D'ailleurs, les producteurs, est-ce que ce sont toujours les mêmes qui, disons, négocient avec l'autre marché et on sera là aux différents marchés ou il peut y avoir différents producteurs?
Non, il peut y avoir différents producteurs parce qu'il y a beaucoup de marchés publics qui sont organisés à Montréal, mais tout autour. Mm-hmm. Donc, ça dépend de la disponibilité des producteurs.
Et quels sont les critères, justement, pour participer, pour être exposant chez vous?
Il faut être vraiment le producteur. Vendre ses propres produits.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment notre critère numéro un. Que ce soit un maraîcher qui fait lui-même ses légumes, un boulanger qui fait lui-même son pain, on ne veut pas avoir de revendeurs sur le marché pour que le citoyen puisse vraiment rencontrer la personne qui va faire les produits, en apprendre plus sur comment c'est fait. Puis,
Et est-ce que les prix justement sont donc plus abordables vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire?
Contrairement aux idées reçues, souvent les prix sont plus intéressants. Et puis on a beaucoup de producteurs qui jouent vraiment le jeu vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et par exemple, au marché Angus, pour certaines viandes, même le fromage, on va retrouver ça à un ou deux, voire plusieurs dollars moins cher qu'à l'épicerie. Donc...
Et est-ce que les produits sont biologiques ou pas forcément?
On a des producteurs qui sont certifiés biologiques, pas tous, parce qu'on sait que la certification peut être un peu fastidieuse puis chère à avoir. Mais en connaissant les producteurs, en connaissant leur travail, on sait que beaucoup font très attention à réduire l'usage de pesticides.
Et c'est intéressant et important, selon moi, en tout cas, d'offrir le choix aux consommateurs, qu'on le veuille ou pas. Je veux dire, il y a des consommateurs qui préfèrent sauver des sous, quitte à ce que ce soit pas nécessairement certifié biologique.
Puis, absolument.
Vous n'êtes pas là pour décider de la conduite du consommateur. Au niveau de la location du kiosque, parce que c'est une fois semaine, parce que peut-être c'est moins connu, je présume que c'est moins coûteux d'avoir pignon sur rue chez vous que dans les marchés publics plus reconnus?
Ah oui, c'est sûr que nous, il y a 4 heures de vente à chaque fois, donc on ne va pas faire non plus des tarifs exorbitants. Puis nous l'important, c'est que les producteurs puissent gagner leur vie. Et puis, c'est ce qui fait qu'après, ils vont revenir. Et puis, c'est ce qui fait que les citoyens vont être contents parce que le producteur y revient. Donc non, là, on
peut. Et est-ce que ces producteurs sont aussi des fermiers de famille, par exemple, chez Équiterre, ou ils font des paniers bio dans d'autres circonstances?
Oui. On a un fermier de famille qui est chez Équiterre au marché Angus. Et puis, on en a un autre aussi au marché Prince Arthur.
Parce que ça leur permet aussi de se faire connaître.
Absolument.
D'ailleurs, c'est vrai. Est-ce que vos marchés servent de dépôt pour l'agriculture soutenue par la communauté, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager, même si nécessairement ils ne s'installent pas pour la journée, d'utiliser votre marché comme dépôt?
Oui, absolument. Okay. Pour ces maraîchers qui ont des familles inscrites pour des paniers, là, le marché est un point de dépôt parce que c'est vraiment gagnant-gagnant parce que la famille va venir chercher son panier, mais en même temps, on va en profiter pour acheter
d'autres choses, effectivement.
Et puis, en même temps, nous, pour le maraîcher, on lui apporte de la clientèle en plus également.
Là, vous êtes loin de Montréal-Nord, vous êtes loin de Pointe-aux-Trembles. Il y a encore des portions importantes de la ville qui sont mal desservies.
J'allais poser la même question.
C'est certain, mais après, ça demande quand même beaucoup d'investissement et beaucoup de temps de créer un nouveau marché, parce qu'il faut vraiment laisser la chance au marché de fonctionner. Et puis, il faut aussi qu'on ait une collaboration de la municipalité sur place ou de l'arrondissement.
Ah oui.
Parce qu'on utilise l'espace public, on a besoin d'électricité, on a besoin d'un accès à l'eau.
Puis vous vous coupez forcément des rues ou pas forcément?
Bah si, il y a, par exemple, on s'est arrivé qu'on s'installe dans des parcs.
Ok.
Des stationnements. Donc ça fait que là, on va pas couper une rue, mais c'est sûr que l'emplacement est important et il faut qu'on ait l'accord d'une ville pour ça.
Ouais. Mais à Paris, par exemple, il y a des marchés publics éphémères partout dans tous les arrondissements. Ils prennent les contre-allées. C'est vraiment indispensable. Là. On achète plein de produits frais.
Très bon de vous revoir, Madame Lechêne.
Oui, super.
Marina, qui a été très, très efficace dans une autre vie, autant pour Canal M que pour Ami Télé. Toujours, toujours une chic personne. Et
à l'autre marché, et moi, je voulais juste l'ajouter, il y a plein d'ateliers aussi qui sont organisés, donc il faut aller sur votre site internet, l'autremarché.org.
Oui, c'est ça. Puis sur notre page Facebook, et c'est ça. Là, on prépare les prochaines activités pour la prochaine semaine, donc on va publier ça sous peu. Là.
Super. Merci Marina.
Merci
Jean-Sébastien, démarre-nous ça, le Secret World de Elage Diouf. J'avais envie d'entendre ça aujourd'hui. Ça, un petit peu de oomph avant de parler d'une réalité qui est quand même lourde que celle de résider dans un camp de réfugiés avec Sacha un peu plus tard. Yan mo don jam di gan chinyo suni mirkis nani mondal duyong dim lagi sen ay defe mo yebelol sa suki ang ihol mo doriwar am jom tinang mo dige bono pitarulo. Yalla musoti mo jalla soxna
Baby.
C'était Elage Diouf avec Secret World. Et tout de suite, Sacha Rakovic, donc, qui est un ex-réfugié croate. Bonjour Sacha.
Bonjour.
Bon alors, est-ce que vous avez vu le match hier?
Oui, je vais regarder ça. J'ai manqué la première moitié, mais j'ai écouté la deuxième demi.
Tu reconnais par son accent là, qu'elle est heureuse, elle, aujourd'hui. Là.
Mais c'était un beau match quand même. Moi aussi, j'ai manqué la première partie. On m'a dit que vous étiez très bon, même meilleur que les vainqueurs finalement. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous dire que j'espère que vous gagnerez une autre fois.
Quand ça sera pas contre les Français.
Si on suit la logique, dans 20 ans, on devrait gagner. Parce qu'en 98, on a fini troisième. En 2018, deuxième. Donc, en 2020, d'ici 20 ans, on devrait finir premier.
2038, vous serez vainqueur.
2038, exactement.
Champion du monde.
Ouais, tu as juste 35 ans, alors tu vas voir ça.
Alors, Sacha, on voulait plus sérieusement vous parler de votre histoire, en fait, de votre lien avec votre pays d'origine, ouais. Parce que vous avez vécu dans un camp de réfugiés enfant, et on a été curieux avec Luc de savoir, en fait, si c'était aussi pénible qu'on peut l'imaginer.
Ben pour moi, j'avais l'âge que j'avais, c'était pas si pénible que ça. C'est sûr qu'il y avait des affaires que c'était pas facile, là, comme la douche communautaire, puis les repas là, qui étaient pas toujours appétissants. Là, mais à part de ça, ça me dérangeait pas de vivre dans une roulotte, honnêtement. Là.
C'est ça. Parle-nous un peu, comme je t'expliquais quand on s'est parlé plus tôt ce matin, étant aveugle, puis je suis pas le seul à l'antenne, donne-nous un peu l'image d'un camp de réfugiés, le genre de demeure. Est-ce qu'on a des cours, pas de cours? Est-ce qu'il y a des terrains de jeu?
OK, ben ça, c'était... Dans le fond, moi, j'étais dans un camp de réfugiés qui était... J'en ai vu une couple, puis celle-là, c'était un des mieux, là, selon mon opinion. Puis qu'est-ce qui fait que c'était bien, c'est que chaque famille avait sa roulotte. Il y avait une cafétéria générale où ce qui servait tous les déjeuners, dîners et soupers. Juste le dimanche, je pense qu'il ne servait pas de souper, mais ils nous le donnaient à l'avance comme le dîner ou quelque chose comme ça. Puis on était sur le bord de la plage. C'était un camp de roulotte qui appartenait aux Italiens, mais qui ont décidé de le prêter aux réfugiés, dans le fond. Donc, c'était une très, très, très belle place sur le bord de la mer Adriatique. C'était pas pénible en tant que tel, sauf que la nourriture, comme je dis, ça laissait à désirer, puis certains aspects du camp, là, tandis qu'il y en avait un que j'avais visité, que c'était au centre-ville, proche de la ville, qui était plus proche du camp, c'était Pula, c'était dans la région qu'on appelle Trieste, en Croatie. Puis ce camp-là, c'était vraiment affreux. Là. C'était comme une école secondaire qu'ils ont transformé comme... ils ont fait des apparts ou des chambres pour les réfugiés. Là. Puis les gens y étaient empilés un par-dessus l'autre. Et ça, j'avais visité l'intérieur, là, c'était mal propre. Les toilettes étaient dégueulasses. C'était vraiment quelque chose d'affreux. Là. Puis je remercie le bon Dieu que j'ai pas fait partie de ces camps-là.
Et qu'est-ce qui fait qu'une famille arrive dans un camp de réfugiés comme la vôtre?
Ben nous, on était obligés de partir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'élément déclencheur, je vous dirais, qui est arrivé en Bosnie, qui a fait qu'on a pacté puis on s'est dit on n'a pas le choix de se sauver, c'est que moi j'habitais dans une petite ville d'à peu près 100 000 habitants, ou si je me trompe pas, en tout cas c'est pas loin de ça. Ça s'appelait Cacagne, c'est à côté de la ville d'où je suis né. Puis mon oncle, il restait à un village qui est à côté de la ville. Puis le village, il s'est fait attaquer par l'armée bosniaque. Puis ils ont brûlé des maisons, ils ont fait toutes sortes d'affaires, donc je suis pas trop confortable d'en parler en ondes, parce que je veux pas...
C'est correct.
Ben, je sais pas si je devrais en parler, mais c'était assez grave, là, qu'est-ce qui est arrivé. Puis notre vie est à ce moment-là, on savait que notre vie était en danger de rester en Bosnie, que c'était plus sécuritaire pour nous autres, vu des événements qui sont passés dans ce village-là.
Mais comment aboutit-on dans un camp plutôt qu'un autre? Comment se fait-il que...
C'est pas nous autres qui a décidé ça. Okay. On n'a pas décidé d'où ce qu'on allait. C'est le gouvernement croate qui nous a placés.
Mm-hmm.
Quand même, donc, effectivement, c'est quand même un coup du dé. Parce que j'imagine que le moral, la vie, l'école? Parce que tu me disais qu'on va aussi à l'école. On essaie d'avoir une vie la plus normale possible.
Oui, exactement. Moi, j'allais à l'école, puis je me suis fait beaucoup d'amis croates là-bas, puis même... Ah oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fait partie de l'équipe de soccer de mon école, puis tout. Pour moi, c'était bien, là. Mais comme je te disais tantôt, de mes souvenirs de mon enfance, des plus beaux souvenirs de mon enfance, c'était là, en Croatie, là, justement du camp de réfugiés.
Oui. Bon, c'est pas nécessairement la même réalité pour ta mère qui avait la responsabilité de l'avenir de tout le monde. Puis elle, est-ce qu'elle travaillait sur le camp ou elle travaillait en ville? Comment c'est possible de travailler lorsqu'on est réfugié?
Oui, c'était possible. Il y en avait plusieurs qui travaillaient. Ma mère, elle s'est trouvée comme un emploi comme serveuse dans un café bistrot qui était pas trop loin, je te dirais à 30 minutes à pied de notre camp. C'était aussi sur le bord de la plage, puis c'était un endroit touristique, donc elle s'est trouvée un emploi comme serveuse.
Mais étiez-vous perçu comme des voleurs de job? C'est eux autres qui arrivent, là, il faut leur donner un paquet d'affaires, ils prennent nos jobs, ou ça a été bien vu?
Comme je te disais tantôt, c'était pas mal partagé. Il y avait beaucoup de Croates qui nous acceptaient comme des Croates, puis il y en a d'autres qui nous voyaient comme pas des vrais Croates, là, parce qu'on venait de la Bosnie et on était des réfugiés, donc pour eux autres, on n'était pas des vrais.
Mm-hmm. Et vous avez changé de camp?
Oui, le premier camp, c'était à Novigrad, c'était dans le sud de la Croatie, et lui était surpeuplé. Je me rappelle que nos valises, quand ils sont arrivés après, parce qu'ils n'ont pas voyagé avec nous autres, ils avaient comme échappé dans l'eau, quelque chose, c'était plein d'eau, donc tout notre linge était à rechanger, on n'avait plus rien à mettre pendant des jours. Puis on était bien chanceux d'avoir beaucoup de volontaires de l'Italie qui venaient et nous ont aidés avec justement beaucoup de choses, surtout le linge puis la nourriture. Ils nous laissaient même des fois de l'argent là, pour nous dépanner. Là.
Sacha, pourquoi le Canada?
Ben le Canada, c'était le premier à nous avoir répondu. On a envoyé plein de demandes. On a envoyé des demandes en Australie, en Suède, en Norvège, tous les pays qui acceptaient des réfugiés, des immigrants dans ces années-là. Et le Canada, ça a été le premier qui nous a répondu. Mon frère et ma mère sont allés à l'ambassade canadienne à Zagreb pour rencontrer l'ambassadeur canadien qui a accepté notre demande puis il nous a arrangé les billets d'avion et tout là. Il nous a préparé un peu à quoi s'attendre en arrivant ici.
Mais dans le fond, là, quand vous disons pour l'image, quand vous avez posté vos différentes demandes dans boîte aux lettres, là, est-ce qu'il y a un pays que vous souhaitiez plus qu'un autre en vous disant un peu comme quand on applique à l'université?
Oui, on souhaitait soit l'Australie ou le Canada, parce que pour le niveau, on regardait un peu sur les brochures et tout, puis de qu'est-ce que notre famille qui était en Australie nous disait, que la vie en Australie, c'était bien, puis le Canada, on le savait que c'est l'Amérique du Nord, donc c'est très très moderne et tout, donc ça nous intéressait. En n'importe quel des deux, on était contents.
Et est-ce que
mais
vous
c'était
êtes...
le Canada qui nous a répondu avant.
Ouais. C'est encore aussi un petit coup d'idée de la vie. Et est-ce que vous êtes retourné en Croatie?
Oui, je suis retourné à plusieurs fois. La dernière fois que j'ai été, c'était en 2009-2010.
Et ça vous fait quoi?
Oui, ça remue quoi en dedans?
Ben, j'ai beaucoup de souvenirs de l'enfance, avant la guerre aussi, là, quand j'allais sur le bord de la mer avec toute ma famille. On allait en vacances. C'est juste l'odeur... C'est particulier là, des sapins et de la mer. Ça ramène beaucoup de souvenirs. C'est très touchant. Là.
Et disons, l'adaptation entre la vie en camp et la vie au Canada, où même si le climat, bon, on n'est pas en guerre et tout, c'est quand même une autre langue, c'est quand même une autre culture. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile entre les deux?
Entre m'adapter ici ou là-bas, c'est
ouais.
ça?
T'adapter dans un camp ou t'adapter dans un nouveau pays?
Ben, c'était plus dur m'adapter ici, mais pour moi, ça a super bien été parce que j'ai appris le français en 6 mois. Donc, je suis arrivé ici en mois de mars. Le seul cours qui m'a exempté, c'était le cours de français. Puis j'ai eu comme un cours spécial de français pour débutants que j'ai réussi, dans le fond. Je suis arrivé en 6e année, je suis arrivé au mois de mars. Ils ont décidé de ne pas me garder une autre année parce que j'étais avancé. Quand ils m'ont transféré au secondaire, au début, j'étais dans la classe d'accueil. Puis après 2 semaines, ils ont dit que mon français était trop bon pour rester en classe d'accueil. Ils m'ont mis en français normal. Puis j'avais réussi mon année avec quelque chose comme 62%. Là.
Mm-hmm. C'est bon.
Au niveau des amis,
la moyenne.
au niveau des amitiés, au niveau peut-être du travail pour ta mère, est-ce que ça, parce que souvent on entend parler, bon, ils acceptent pas nos diplômes, faut recommencer en bas de l'échelle.
Ouais, ma mère, elle avait pas le choix de refaire son diplôme parce qu'elle était secrétaire juridique, donc pour elle, rien qui s'appliquait ici, là, qui était transférable, là, une autre langue, un autre système juridique, d'autres lois, donc il y a rien qui fonctionnait, elle était obligée de refaire toute une école, mais elle n'a pas refait vraiment une école. Elle est allée à l'école à Québec, où c'est pour la langue. Mm-hmm. Là, c'est fait des amis soit de notre pays, là, qu'elle a rencontré là-bas, ou d'autres aussi qui apprenaient la langue française.
Parce que c'est
pour
ça,
moi,
tu t'es installé
moi,
à Québec.
C'est instantané, l'adoption du Québec. Je pense que ça a pris comme 2 mois. J'avais déjà une blonde québécoise. J'avais plein d'amis québécois.
T'es efficace, Sacha. Mais justement, bon, vous êtes installé à Québec, alors c'est peut-être une des solutions, c'est d'avoir le moins de similitudes possibles pour s'obliger à comprendre la langue, peut-être?
Oui, exactement, mais j'ai remarqué aussi que j'avais d'autres amis qui sont arrivés en même temps que moi. On était sur le même avion, c'était des Croates ou des Serbes, là. Puis il y en a qui s'étaient moins bien intégrés. Puis ça, c'est dû au fait de la classe d'accueil où ils ont décidé de ne pas me garder. Aux autres, ils sont faits comme une petite clique là, de Serbes, Croates, puis tous les anciens Yougoslaves. Là. Puis eux autres, ils se tenaient juste ensemble. Dans le fond, ils ne sont pas intégrés aux autres Québécois. Tandis que moi, j'avais plus d'amis Québécois.
Ça a été beaucoup plus
facile pour
moi.
Merci beaucoup d'avoir été là, Sacha. Merci de nous en avoir parlé. Et quand on dit que le sport rassemble, on ne se serait pas rencontrés ou connus si ce n'était pas de la finale de la Coupe du Monde. Salutations!
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Sur Canal M, la radio de Vues et Voix. On va, dans les prochaines minutes, causer Coupe du Monde. On va regarder l'accessibilité avec Dominique Tremblay. On va également se farcir les oreilles, puisque DJ Montréal, DJ Yannick Roberge, bien généreusement accepté de nous offrir des petits montages comme ça. Mais d'abord, Christine Larrivé, qui est conseillère aux partenaires au SDEM CEMO Montérégie, qui est avec nous. Le SDEM, qui est un CEMO qui se spécialise dans l'offre d'emploi pour les personnes avec une limitation fonctionnelle. Bonjour, Christine.
Bonjour, Luc.
La différence entre, disons, les offres que proposent les CEMO et ce que propose le SDEM, parce que parfois les employeurs peuvent être encore un peu frileux si on pense à, disons, une clientèle handicapée. Moi, je viens de terminer mon petit contrat, là, puis il faut que je me trouve un job. Je me dis, oh, est-ce que le SDEM peut m'aider?
Bien sûr. Si, dans le fond, le SDEM, ces mots, on fait de l'aide à l'emploi pour personnes handicapées. On est situé en Montérégie, donc on offre le service pour des personnes qui ont une déficience, que ce soit un problème de santé mentale, une déficience physique, un problème de TSA, déficience intellectuelle. Là, je ne vais pas en oublier, déficience visuelle ou auditive. Donc, puis je vous dirais que de plus en plus, les employeurs se retournent vers notre clientèle parce que c'est sûr qu'il y a de plus en plus de besoins de main-d'œuvre. Je vous dirais qu'une fois qu'un employeur est convaincu, il n'hésite pas là, du tout à recollaborer avec nous là, parce que on propose une main-d'œuvre qui est fiable, qui est assidue et surtout qui est fidèle et qui demeure longtemps en poste. Donc, ça vient vraiment jouer là, sur le roulement de personnel d'une entreprise parce que les statistiques sont là. Les personnes handicapées restent longtemps.
Ouais,
ils sont fidèles à leur employeur.
C'est vrai. Bonjour Christine, c'est Anne-Laure.
Bonjour.
Et
Bonjour,
est-ce que justement vous arrivez à démarcher de nouveaux employeurs chaque année? Est-ce que les chiffres sont probants et encourageants?
Oh, constamment. C'est sûr que nous, nous ne sommes pas une agence de placement, donc nous, on va vraiment démarcher les employeurs selon les goûts de nos clients. Donc, on fait vraiment du démarchage personnalisé. C'est sûr que de plus en plus, je vous dirais qu'il y a des employeurs qui nous appellent, qui souhaitent embaucher des personnes handicapées, mais à part ça, on va vraiment démarcher des nouveaux employeurs de façon quotidienne là, pour nos différents clients.
Mm-hmm. Et est-ce que là, vous allez proposer plusieurs formations? Vous êtes en recrutement pour deux formations. Est-ce que ces formations sont directement en lien avec des employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre?
Mais pas nécessairement, non. C'est vraiment donc des formations adaptées sur mesure et on va vraiment démarcher toutes nos formations en un stage de fin d'études prévu. Puis on va vraiment, comme je vous dis, là, démarcher selon les goûts
à ce moment-là.
De la personne.
Okay.
Oui, exactement. Parce que c'est les possibilités d'emploi sont quand même assez variées. Là, si je pense à ma formation d'agent de bureau, pour laquelle je suis en recrutement à Longueuil, bien, on peut autant devenir secrétaire, adjointe administrative, commis à la comptabilité. Donc, c'est sûr qu'il y a des employeurs qui, bon an, mal an, nous disent, bien, quand les stages vont arriver, je suis là, mais en même temps, c'est tellement un domaine qui est vaste et toutes les entreprises ont des besoins de main-d'œuvre là, dans ce domaine-là. Donc, on va vraiment faire le démarchage là en fonction des candidats. Même chose pour notre autre formation pour laquelle on est en recrutement, là, qui est de préposer au service à la clientèle, alimentation et entretien. Donc, cette formation-là, on peut autant travailler en entretien ménager qu'en cuisine. On en a aussi en buanderie. Donc, c'est très vaste comme champ d'emploi. Là.
Ça, c'est à Châteauguay et à Saint-Hyacinthe.
Exactement. Donc, pour ces deux formations-là aussi, là, on est actuellement en recrutement parce que ça débute bientôt.
Est-ce que j'ai vu qu'il y avait une formation ou des jobs en résidence pour personnes âgées?
Oui, on a une nouvelle formation de préposés aux aînés dans des résidences privées. C'est un projet pilote là, qu'on avait cette année, mais les besoins de main-d'œuvre sont tellement grands qu'on renouvelle là, la formation. Donc, on va débuter pour cette formation-là le recrutement à l'automne et la formation débute en janvier. Elle se donne à Saint-Hyacinthe, mais selon moi, là, les chances qu'elle soit exportée ailleurs en Montérégie là, sont vraiment très grandes parce qu'il y a énormément de besoins de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Évidemment, là, avec le vieillissement de la population, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois là, dans ces secteurs.
Et d'ailleurs, cet automne, vous recrutez également pour une autre formation préposée au bien-être animal. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, ben exactement. C'est pour travailler soit dans les chenils, soit dans les cliniques vétérinaires ou les refuges. Donc, c'est vraiment préposé aux soins. Il y a beaucoup dans la région de la Montérégie, là, particulièrement dans le Grand Longueuil, même des gyms canins. Donc, là aussi, il y a des grands besoins.
J'étais sûre que tu allais relever.
Oui. Hein, donc, des garderies pour les chiens. Il y a vraiment des gens qui vont porter leurs chiens là, tous les jours pour les faire garder.
Oui, il y a aussi des promeneurs de chiens. Est-ce que ça en fait partie?
Exactement. Oui, tout à fait. Donc, ça aussi, là, le taux de placement de notre cohorte qui a terminé l'an passé, on a eu 100% là, de taux de placement. Là, actuellement, la formation cette année, les élèves sont en stage. Et pour cette formation-là aussi, là, sera reconduite. On va recruter à partir de la mi-octobre et la formation va débuter également en janvier 2019.
Christine, quand vous dites 100% de placement, est-ce qu'on parle de placement en stage ou vraiment ces gens-là se sont trouvés un boulot temps plein?
Non, en emploi.
Ah oui.
Nous, nos statistiques, c'est vraiment basé sur l'emploi. Donc, Service Québec nous demande que suite à nos formations, au moins 60% des élèves soient en emploi ou fassent un retour aux études dans une formation plus poussée dans leur domaine. Et bon an, mal an, là, on atteint toujours nos cibles et même plus. Là. Fait que...
ouais, vous êtes vraiment perçue comme une manne, là, j'imagine. Est-ce que toutes les personnes qui ont des limitations arrivent à se trouver un emploi en Montérégie?
Bien, c'est sûr que non, malheureusement, on n'arrive pas à toutes les placer, mais on en place quand même une bonne partie. Là, si on regarde si je regarde le volet emploi, par exemple, là, qui est plus le volet CEMO, Emploi Québec va demander qu'on ait... là, je dis Emploi Québec, mais maintenant, je devrais dire Service Québec va demander qu'on place plus de la, 50% de nos clients, mais on est vraiment au-delà ça, là. Et on place, donc, je pense, sur 600 quelques admissions, on a fait près de 500 placements l'an passé.
Super.
Là.
Et est-ce que, je me cherche un emploi, comment je peux faire donc pour m'inscrire à l'une de ces formations?
Donc, vous avez qu'à appeler à nos bureaux. Donc, je peux peut-être donner le numéro de téléphone. C'est le 450-646-1595. Vous faites le 0, puis la réceptionniste là, pourra vous référer vers la bonne personne. Évidemment, il faut en principe résider là, en Montérégie pour bénéficier de ces formations-là, normalement.
Et les formations sont adaptées? Est-ce que les horaires sont adaptés? Parce que là, je vois, par exemple, pour agent de bureau, c'est 40 semaines. Une formule d'alternance travail-études, c'est combien d'heures par semaine?
C'est un 30 heures semaine de formation, puis on ne peut pas vraiment déroger de ça. D'ailleurs, c'est un des critères. Il faut que la personne soit en mesure là, d'occuper... un emploi à temps plein à la fin de la formation. Nos formations de préposés au service à la clientèle, c'est un petit peu moins d'heures, mais c'est ça. En principe, il faut que la personne soit en mesure là, d'intégrer un emploi à temps plein. Par contre, c'est vraiment des formations sur mesure. On ne prend pas beaucoup d'élèves. Là, pour la formation agent de bureau, c'est 10 personnes. On a vraiment des postes adaptés. On fait venir un ergothérapeute en début de formation pour vraiment adapter tous les postes de travail. Et c'est vraiment des formations sur mesure qu'on va quand même là, moduler là, selon les compétences de la personne. Une personne qui va être très, très forte, par exemple, on va être en mesure là, d'aller un peu plus loin avec cette personne-là là, pour l'amener à occuper des postes plus exigeant là au niveau des compétences
super.
Et même chose pour quelqu'un pour qui ce sera un petit peu plus difficile, ben on va l'accompagner là.
J'imagine qu'il y a un suivi après aussi.
Oui, tout à fait.
Christine, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup. Je le rappelle, Christine Larrivé, vous êtes conseillère aux partenaires pour le SDEM CEMO Montérégie. On va mettre un lien sur notre site internet et on se reparlera probablement cet automne. À bientôt.
Parfait, merci, au revoir.
C'était un beau montage. Luc, est-ce qu'on va pouvoir entendre Yannick Roberge toutes les semaines?
C'est ce que Yannick m'a annoncé.
Waouh, c'est génial.
D'ailleurs, j'ai déjà reçu d'autres montages. La semaine prochaine, on devrait aller dans le genre Motown.
Mm-hmm. J'ai hâte. Donc, déjà là avec nous en studio, Dominique Tremblay, chroniqueur sport pour Ami Télé, qui n'a pas pu voir le match car il travaillait. Mais il va nous parler de l'accessibilité de la Coupe du Monde de soccer. Et Dominique, est-ce que ça a été facile pour les personnes en situation de handicap d'assister au Mondial cette année?
Bien, la FIFA fait quand même du bon travail pour améliorer l'accessibilité universelle durant la Coupe du Monde, surtout depuis 2014, la Coupe du Monde qui avait lieu au Brésil.
Ouais.
Pour la Coupe du Monde en Russie, on parle de 22 000 billets qui ont été vendus pour les personnes à limitation fonctionnelle, fauteuil roulant ou qui ont de la difficulté à se déplacer, ce qui est un record pour la FIFA. C'est du moins ce que la personne responsable de la diversité a dit pour la FIFA. Donc, c'est quand même bien. Ça représente quand même un petit peu moins de 1% de tous les billets qui ont été vendus pour la Coupe du Monde. C'est quand même un bon chiffre.
Quelle est l'obligation de la FIFA ou quelles sont les obligations que la FIFA impose aux villes hôtesses? Et est-ce que ça fait partie du... j'ai juste le bid, là. Disons, la présentation lorsqu'une ville tente d'obtenir le tournoi?
Je ne sais pas si il y a quand même dans le plan de présentation qu'on parle d'accessibilité. Mais quand on parle à l'intérieur des stades, il doit y avoir un intérêt qui est porté aux personnes qui ont un handicap. Par exemple, il va y avoir un système d'aide à l'audition à l'intérieur des stades, des moyens pour se rendre au siège, de l'entrée du stade jusqu'au siège, des sièges réservés, et ainsi de suite. Mais la FIFA ne contrôle pas les infrastructures. Donc, les métros, les trains, les taxis, les autobus, les trottoirs, les routes, ça, ils n'ont aucun contrôle sur l'accessibilité sur ça, mais il y a quand même une certaine politique et une certaine attention qui est portée aux personnes avec un handicap.
Moi, après Sochi 2014, donc les Jeux olympiques et paralympiques, j'entendais, bon, c'était deux ou trois commentaires, remarque, là, mais que... entre l'aéroport et le village olympique, c'était accessible, mais que le reste du pays et le reste du calendrier, mis à part les semaines paralympiques, il y avait énormément de rattrapage à faire. Est-ce qu'on a, disons, le même son de cloche où on semble dire que l'accessibilité en Russie s'est améliorée?
Je pense que le fait d'avoir obtenu les Jeux paralympiques à Sochi en 2014 a fait une assez grosse différence. Depuis ce temps-là, la Russie a signé un accord pour améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées à la grandeur du pays. Ce qui a aussi aidé, c'est que la Coupe du Monde n'est pas seulement réservée à une ville comme les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques. Donc, la différence entre les Jeux paralympiques ou les Jeux olympiques, c'est... l'accessibilité va être de loin améliorée, mais ça va être concentré juste dans une ville, un endroit. Mais quand on parle de la Coupe du Monde, c'est quand même 16 villes, 16 stades. Donc, il y a quand même une infrastructure qui est pan-nationale qui peut aider. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai réussi à parler à une connaissance qui vient d'Israël, qui est allée à la Coupe du Monde, qui est en fauteuil roulant.
Okay.
Et lui a quand même été surpris de son expérience. Il est allé à Saint-Pétersbourg pour un des matchs de quart de finale et un match de demi-finale. Puis il est allé à Moscou pour une autre demi-finale et la finale. Et il a été quand même surpris de l'accessibilité universelle qu'il a pu voir là, dans la ville de Saint-Pétersbourg et de Moscou.
Dominique, je ne sais pas si tu as vu passer ça. J'ai vu qu'entre autres, une des mesures prises pour accéder au métro, je crois que c'est le métro moscovite, c'était du monde qui te descendait à bras. On aime ça ou on n'aime pas ça?
Je pense que...
poser la question, c'est y répondre.
C'est... si j'ai pas le choix, je vais le faire. Mon ami qui est allé, qui était d'ailleurs à Moscou pour la demi-finale, la finale, n'a pas essayé le métro à bras, a plutôt décidé de choisir le taxi. Je pense que s'il y a une meilleure planification et on peut rendre les stations de métro accessibles, Mais il faut aussi comprendre que dans certaines villes, les métros ont été construits il y a plusieurs dizaines d'années et les rendre accessibles est souvent un petit peu plus compliqué.
Je posais la question parce que, bon, en théorie, Montréal est en lice pour recevoir certains matchs en 2026. Est-ce qu'on... Ben, je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'on devrait utiliser ce rendez-vous-là pour rendre notre métro accessible complètement, mais est-ce que, justement, des exemples comme celui qu'on vient de voir risquent de faire jurisprudence, puis on pourrait se dire « Ben, ils ont fait ça à Moscou, ça a bien été, on va descendre le Mont-Labra dans les stations pas accessibles. »
J'espère que non. On a quand même un bon 8 ans avant la Coupe du monde qui a des chances d'être à Montréal. Montréal pourrait être une des villes canadiennes choisies, une des 3 villes choisies. Puis, par exemple, je vais donner un exemple, la prochaine Coupe du monde est au Qatar et en 2016, ils ont déjà mis en place un comité pour travailler sur l'accessibilité universelle de cette Coupe du monde-là et ils veulent la faire la Coupe du monde la plus accessible. Donc, si le Canada...
Ça, c'est pour quand?
Pour 2000, donc dans 4 ans.
2022.
Donc, ils travaillent là-dessus déjà. Donc, ça serait bien de voir les États-Unis, le Mexique, le Canada travailler sur la partie de l'accessibilité universelle.
Ouais.
Parce que c'est pas tous des gens de local qui vont voir les matchs. Il y a aussi des touristes qui ont des handicaps qui vont venir. Donc, c'est une bonne carte de visite pour parler pour la ville.
Excuse-moi, est-ce que l'expertise... qui va être développé au Qatar pourrait être exporté?
Un cahier de charge.
Toute expertise peut être utilisée. Les comités organisateurs de chaque Coupe du monde, puis ça va pour les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, reçoivent les documents, les rapports qui ont été produits pour dire, OK, voici ce qui a été fait, voici comment on peut adapter à notre propre environnement, nos propres choses, et puis voir ce qu'on peut faire. Puis c'est ça que un autre exemple de mon ami là, qui vient d'Israël, qui était à Moscou. Lui était à Montréal au mois de mai pour le défi sportif. Et lui aussi a dit, ben Montréal quand même est accessible. Il y a des choses à travailler, comme le système de taxi. Il faudrait que ça s'améliore. Il a trouvé un petit peu difficile. Les trottoirs à Montréal ne sont pas toujours en bon état dû à cause de l'hiver, surtout. Donc, travailler. Puis il me parlait de l'expérience du stade à Leningrad où quand les gens se lèvent... ben les personnes en fauteuil roulant ne voient pas l'action. Puis pourtant, ce stade-là a été construit en 2017, donc un an avant la Coupe du monde. Puis le stade olympique où auraient lieu les matchs qui a été construit donc en 1976 pour les Jeux olympiques, on a la même problématique. Donc il faudrait peut-être essayer de trouver une solution.
Ouais. Mais donc dans le design, dans la sensibilité... de celui ou celle qui a fait le design du stade, là, c'est intéressant qu'on oublie encore ces détails-là, mais eux sont payés pour le faire. Là.
Oui, c'est ça. Donc, c'est bien souvent de mettre une place pour personnes handicapées, mais c'est quelles sont les conséquences quand...
Si la visibilité n'est pas bonne...
Oui, c'est ça. Quand les gens... Quand il y a 70 000 personnes dans le stade, c'est qu'est-ce qui arrive? C'est pas toujours la même quand il y a personne.
Oui, t'as raison. Il y a juste moi qui dirais rien dans ce temps-là.
Donc toi, tu serais bien content. Il n'y a rien qui change.
C'est vrai, effectivement. Dominique Tremblay, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Merci, à dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
Nous, on va parler des maritimes après la pause, entre autres.
Oui, avec Serge Bradet, notre chroniqueur historique.
Et d'un programme neurolinguistique.
Ouais.
Vous écoutez Aime l'été.
Et tout de suite, on écoute la chronique d'Emmanuel Robitaille qui s'entretient avec Gaïa, qui est une spécialiste en programmation neurolinguistique, la PNL, et elle nous parle de la peur de s'exposer.
Merci Anna, merci Luc, Emmanuel, avec vous pour cette belle chronique PNL aujourd'hui pour voir comment on peut mieux passer l'été avec notre coach PNL, Gaïa. Bonjour, Gaïa.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, et toi?
Ça va super bien.
D'abord, peux-tu nous rappeler rapidement ce que c'est que la PNL?
Oui, en fait, c'est l'art de reprogrammer son cerveau de manière à penser plus positivement puis communiquer ces nouvelles pensées-là pour atteindre nos objectifs, réaliser nos rêves-là.
Donc, c'est la programmation neurolinguistique qui nous aide. Et on parle d'été ensemble. Et qui dit été, dit festivité, dit soleil, dit bonne humeur. Et pourtant, c'est pas toujours le cas.
Non, vraiment pas. Puis il y a beaucoup de gens qui souffrent de phobie, justement. La phobie de l'exposition, la pudeur. Tu sais, les gens qui sont pas bien à l'intérieur, là, finalement, ils n'aiment pas ça, le soleil. Ils n'aiment pas ça se montrer. Puis... l'été, c'est ça, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est être un peu le centre de l'attraction. Puis les
c'est
gens...
comme si le soleil, c'était le projecteur qui se trouverait sur nous. Là.
Oui, vraiment, okay. Vraiment. Fait qu'imagine les gens là, qui sont en dépression, qui vont pas bien. Eux, là, ils aiment ça l'hiver, ils aiment ça coucouner, ils aiment ça être dans leur lit, regarder des films. On n'a pas besoin de se montrer le corps, là, on n'a pas besoin de se montrer le corps et l'âme. Parce que quand on est dans le spotlight, là, c'est comme faut que tu te dénudes.
Il n'y a plus beaucoup de place pour se cacher.
Non.
Parce que, puis c'est vrai ce que tu dis, c'est pas quelque chose à quoi j'aurais pensé facilement, mais quand on est habitué d'hiverner depuis des mois et des mois...
Surtout nous, les Québécois.
De retour, exactement, c'est un clash absolument incroyable. Oui. Donc, de s'exposer, effectivement, et comment on peut mieux vivre avec cette difficulté, cette peur-là de s'exposer tant dans notre jardin intime dans notre peau, parce qu'il faut enlever des couches aussi, là, on va se le dire, il fait chaud.
Exactement, c'est ça. Puis tu sais, les bikinis, puis les cuisses, puis les pour plusieurs personnes, là, c'est pas le fun. Tu sais, ils voient l'été, puis on en voit qui ont des petites laines, là. Il fait 30 degrés, puis ils ont des petites laines. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas bien, la pudeur et tout ça. Donc, ça vient tout ça de l'amour propre. Hein? C'est sûr que ça vient de là. On a des techniques en PNL qui sont très, très simples pour ça. En fait, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est la technique que je pourrais dire la plus reconnue en PNL. Mais l'auto-ancrage, là, ça, c'est fantastique. Ça fait des miracles.
Donc, explique-nous qu'est-ce que ça fait, parce que je pense qu'on va en bénéficier. On va être plusieurs.
Oui. Ben, même moi, je le pratique encore là, pour plusieurs situations. En fait, l'auto-ancrage, c'est vraiment de te fermer les yeux. Là, si tu veux faire l'exercice pendant que je te le dis, c'est que tu te fermes les yeux puis tu vas retourner dans un moment qui te fait sentir bien. Puis ça, c'est au niveau, dans tous les sens. Je veux que peut-être tu sentes, tu écoutes, tu sentes peut-être une chaleur si t'es dans ton lit ou sur la plage, un endroit qui te rend heureuse, vraiment. Là,
qui me rend bien dans mon sentiment d'être.
Exactement.
De bien-être, littéralement.
Oui. Ton ancrage, là, c'est vraiment c'est ce sentiment de bien-être à l'intérieur. Donc, tu veux retourner vers ce sentiment-là, les yeux fermés, et tu vas vraiment t'imaginer, tu vas te voir dans cet endroit-là. Puis après, tu vas associer, en fait, un stimuli physique. Donc, ça peut être serrer ton poignet, prendre ton lobe d'oreille. Il y a des gens qui se touchent dans les cheveux, qui se grattent. C'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu pourrais identifier ou associer plutôt à ce sentiment, à cette émotion qui est positive, qui te fait sentir bien? Et tu vas le répéter plusieurs fois. Donc, tu t'ouvres les yeux maintenant.
OK.
Là, tu vas refermer les yeux, tu vas retourner dans ton émotion et tu vas refaire ton stimuli physique qui va associer ton ancrage.
Donc moi, par exemple, si la place où je me sens le mieux, c'est littéralement dans mon lit, et je vous l'annonce, c'est vraiment dans mon lit. Moi, je me sens bien quand je suis dans mon lit, je me sens en sécurité.
Exactement.
Je me sens là où je peux être moi-même. Oui, tu sais, il y a cet
en
aspect
contrôle.
D'intimité là, qui est présente, où je suis bien, je me sens à la maison. Donc là, je pense à, bon, quand je me couche dans mon lit, puis que je me sens mes couvertes, puis mon oreiller, puis la doudou, là, c'est vraiment comme... Oui. Et là, moi, j'aime beaucoup, je vais prendre les mains, parce que je trouve que c'est passe-partout. Moi, je trouve que ça...
C'est discret.
C'est discret.
Aussi,
ça paraît pas.
Oui, c'est ça.
Donc, et là, j'associe ça.
Ça, c'est ton ancrage.
OK.
Oui.
Et là, je me referme les yeux.
Tu vas le repratiquer. En fait, si, là, les techniques sont toujours simples, les techniques de PNL sont simples, mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est la discipline, c'est de répéter. Donc, tu vas retourner. Puis tu peux le faire peut-être au début, 3 fois par jour. Tu vas retourner dans cet espace-là où tu vas te sentir bien avec ton stimuli physique et tu vas trouver les yeux. Tu retournes, tu trouves les yeux. Donc, vraiment d'aller pratiquer ça. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand tu vas justement avoir cette phobie-là d'exposition, tu vas devoir sortir. Peut-être que tu vas te sentir à un moment donné super exposé, puis tu ne te sentiras pas bien, puis faut que j'aille à la plage, puis Fait que ce que tu vas faire, tu vas vraiment retourner avec ton ancrage. Tu vas simplement toucher, toi, tu t'as dit les doigts. Je vais aller retoucher mes doigts et ton cerveau va avoir associé ce touchage-là, là, j'invente un mot.
Oh,
ce...
moi, j'aime ça.
Oui, moi aussi, c'est pour ça qu'on s'entend bien.
Ce touchage.
Oui, le touchage.
Donc, on va pouvoir rapporter un endroit à notre jardin secret.
Exactement.
Notre endroit n'importe où, même dans des endroits où on va se sentir exposé
pas
et pas bien. Tu as parlé rapidement tout à l'heure d'amour de soi.
Oui.
Parce qu'effectivement, puis on a parlé de pudeur, et effectivement, si on n'aime pas nos épaules, ben on ne montera pas nos épaules, on ne mettra pas des petites camisoles. Si on n'aime pas notre ventre, ben on va choisir un one piece plutôt qu'un bikini. Oui. Donc, effectivement, l'aspect de la pudeur, l'aspect de l'exposition fait référence énormément à l'amour
de
qu'on porte à soi.
Oui.
Et on peut-tu faire quelque chose rapidement par rapport à ça?
Oui. La phobie, en fait, de l'amour de soi, là, c'est ça, c'est d'arriver à de se reconnecter. Puis quand on... une technique qui est très, très simple et très difficile à la fois, que j'aime beaucoup, c'est une technique de Louise Hay qui elle, a défini, en fait, pour améliorer l'amour de soi. C'est une technique, tous les matins, par exemple, on va tous à la salle de bain, le matin, hein? Puis on termine pratiquement...
C'est conseillé, en tout cas.
Ben, moi, je le recommanderais, là, dans mes... Puis le soir aussi, avant de se coucher, souvent, c'est peut-être le dernier endroit qu'on va aller. Donc, il y a toujours souvent un miroir. C'est vraiment de commencer la journée, de te regarder, disons que toi, Emmanuel, tu te regardes dans le miroir, tu dis, Emmanuel, je t'aime, je t'aime vraiment beaucoup. Comme je dis, c'est très, très simple, hein? Mais de vraiment, d'arriver à se regarder dans les yeux et de se dire ça et de s'aimer, de sentir la sensation qu'on s'aime pour de vrai, c'est ça qui est difficile. Et ça peut changer une vie.
Mais effectivement, parce que j'imagine que quelque part, si on a de la difficulté, bon, pour l'amour de soi, quand on a de la difficulté comme ça à s'exposer, c'est que le regard des autres aussi est à quelque part difficile à...
Ouais.
À tolérer.
Si tu t'aimes pas toi-même,
si nos propres yeux,
ouais.
Si on n'est même pas capable de faire ça le matin.
Impossible. Impossible.
On ne peut pas s'attendre à voir cet amour-là se refléter dans les yeux des autres. Et comme tu l'as si bien nommé, ça peut paraître simple, mais c'est un peu plus difficile à faire. Parfois, au début, on peut ne pas se croire, mais au fur et à mesure, on crée des autoroutes.
Oui.
C'est un peu ça, parce que la programmation neurolinguistique...
C'est de reprogrammer.
On reprogramme et on crée de nouvelles autoroutes plus positives. Merci infiniment, Gaïa. Et si on veut d'autres techniques, des outils, on peut te suivre sur ta page Facebook Gaïa Âme Entrepreneur.
Oui. Puis n'oubliez pas de toujours célébrer vos petites réussites. C'est ça la clé du succès.
Merci infiniment.
OK, merci à toi. Bye.
Le groupe néo-écossais Tom Fun Orchestra. Serge Bradet, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On reste
bonjour.
Dans les maritimes?
Oui, dans les maritimes. Donc, encore, je reprends la petite note de la semaine dernière. Quand on parle de l'Atlantique, c'est Inclus-Terre-Neuve. Mais quand on parle des maritimes, c'est seulement les trois provinces, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick.
C'est important de le préciser parce que j'ignorais cette précision-là.
Oui, mais entre autres, quand il y a des soirées électorales fédérales, on dit les Atlantiques vont, l'Atlantique va rentrer bientôt à Saint-Cloud, les quatre provinces, la Terre-Neuve et la... Et les trois autres provinces. Alors, c'est ça, ben oui, les commençons par l'île du Prince-Édouard, qui est la plus petite province au Canada.
Ah oui?
Aussi minuscule.
Combien d'habitants?
Dans les 600... j'ai la... Bon, vous dire ça tout à l'heure, parce que j'ai tellement... C'est mélangé d'une province à l'autre, là, j'en ai eu trois provinces, les chiffres. Puis comme je ne suis pas très fort sur les chiffres, là...
c'est tout près des îles de la Madeleine, non? C'est comme ça qu'on accède.
Oui, on peut... ça prend quand même en traversant.
Oui, 5 heures, je pense. Ouais,
j'avais pensé à le faire au printemps, là, quand je suis allé, mais c'est un petit peu compliqué, là. Je préfère aller aux îles de la Madeleine plus tard. T'sais.
Ah ouais, moi, je l'ai fait, c'est génial.
Oui, vous avez fait en bateau?
Voiture et bateau.
Ah, OK. Ouais. Moi, je vais le faire en bateau en fin septembre.
Croisière.
En partant de Montréal, oui. Par le bateau qui ravitaille les îles.
Oui.
Ça, c'est 7 jours en tout. Donc, l'île du Prince-Édouard, on commence par le nom. Vous savez, dans l'histoire, quand on découvre ou qu'on colonise, on donne des noms, souvent, en tout cas en Amérique du Nord, d'origine indienne. Ou, dans l'histoire, des noms de saints. Ou des noms de rois ou de princes ou de reines. Alors, dans l'île du Prince-Édouard, vous avez tout ça. En Amérique du Nord, vous avez tout ça. L'île du Prince-Édouard, le premier nom documenté, c'était donné par les Micmac et c'était Abekvait.
OK.
A-B-E-Q-W-A-U-T. Je ne sais pas si j'ai bonne prononciation. Ce qui signifie, et c'est tellement beau, bercé par les vagues. C'est cute. les premiers colons français, les Acadiens, ben, eux l'ont ensuite baptisé l'île Saint-Jean, comme il se doit, c'est un vrai. Saint. Et ben là, quand elle a été cédée aux Britanniques en 1763, au traité de Paris, après la guerre de 7 ans, évidemment, St. John's Island. On ne peut pas faire autrement.
Ouais.
Et en 1799, les Anglais l'ont officiellement nommé Prince Edward Island. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le roi qui régnait, George III, avait un fils qui s'appelait...
Édouard.
Oui. Et il était duc de Kent, alors. La capitale de l'île, ben, c'est Charlottetown. Pourquoi vous pensez? Vous idée?
Il avait une fille.
Sûrement.
Sa femme était la reine Charlotte.
Okay. Ah, ouais.
Alors, Charlottetown. C'est tout simple quand on dit...
Mais quand même, le fils a la province, puis elle n'a que la capitale.
Oui. Ben, ça...
C'est l'héritier, hein, Luc, on peut pas...
C'est bon point.
Lui, je pense que c'était pas l'héritier, celui-là.
Ah.
Le roi George III a eu plusieurs fils. Qui ont d'ailleurs sont d'ailleurs venus au Canada à occuper différents postes. Ils avaient des vies un peu dissolues, alors on les a envoyés au
alors
Canada.
Alors c'était le chouchou.
ce qui est intéressant, c'est que l'île du Prince-Édouard c'est à Charlottetown qu'a lieu la conférence pour la Confédération, qui a créé la Confédération. Mais l'île du Prince-Édouard, elle, est entrée dans la Confédération plus tard. La Confédération a été créée en 1867, mais l'île du Prince-Édouard a tardé jusqu'en 1873. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ça les avantageait. Et ce qui les. La petite histoire, c'est qu'ils ont construit un chemin de fer dans l'île, d'un bout à l'autre de l'île, même si elle n'est pas grande, ça prenait un chemin de fer. Et apparemment, ils se sont endettés. Et bien là, ils ont repassé la dette au Canada.
Ah!
Bien joué.
Oui. Population, répondre à votre question. Ah. Ouais. En 2016, 142 907 habitants.
Ah oui,
Pink.
Tout petit.
Et vous savez que c'est la plus grosse densité au kilomètre carré avec 24,7 habitants de toutes les provinces canadiennes. Ben, c'est tellement petit.
Ah oui.
C'est tout petit. Ah oui. Et ça, l'île du Prince-Édouard a la forme d'un croissant.
Ah oui?
Oh, c'est cute, c'est beau. Oui. Ben, vous savez, on peut faire l'île du Prince-Édouard.
En vélo, à pied.
Vous la traversez d'est en ouest en une journée, là, facilement. C'est 200 à quelques kilomètres.
Oui.
Et... En largeur, c'est de 4 à 60 kilomètres.
Seulement 4 au plus
mince. La plus petite, c'est 4 kilomètres. Okay. Donc, 60 kilomètres, c'est quoi? C'est une heure en voiture? Même pas. 60 kilomètres. Je suis pas très fort en
an. C'est en route de la 60 kilomètres.
Oui.
Bravo, Anna.
Ah, je suis bonne.
Ouais.
Une particularité de l'île du Prince-Édouard, c'est le sol.
Oui, et rouge. Ah, je me souviens quand je voyais les trottoirs étaient rouges.
Ouais. Mais comme aux îles, en fait. Parce qu'aux îles aussi, le sol est rouge à plusieurs endroits.
Ah, aux îles, j'ai hâte de voir ça.
Ah, ouais,
je vais le voir probablement à l'automne. Ouais. C'est ça, c'est composé de sable et d'argile.
Je pense qu'il roule les trottoirs à l'automne.
Oui. Le sol est composé de sable et d'argile. Et ben, c'est d'où vient cette couleur brun-rouge caractéristique? Due à la concentration d'oxyde de fer.
OK.
Oui, oui, oui. Et la production agricole, évidemment, pommes de terre.
Oui, c'est vrai.
Moi, je me rappelle dans la famille, là, quand les pommes de terre de l'île du Prince-Édouard arrivaient, là, nos mères et nos tantes, on entend, nos grands-mères, là, c'était sacré, il fallait acheter des pommes de terre de l'île du Prince-Édouard. C'est l'endroit où l'électricité est la plus chère au pays. Ils n'ont pas de ressources.
Ben
non. Non, non. Alors, ils s'alimentent par le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, au moyen d'un câble sous-marin. Et vous avez le fameux pont de la Confédération.
Oui.
Qui est une... il est d'une longueur de 12,9 km. Ça prend à peu près 10-15 minutes à traverser. Et c'est le plus long pont à traverser une étendue d'eau gelée en hiver. Il y a d'autres ponts dans le monde.
Dans le spécifique.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il nous disait ça.
Et dans mon souvenir, il y a des murets. On ne peut pas vraiment voir.
Non, ben, vous voyez au loin, à l'horizon. Ouais. Mais c'est ça qui est plat. Ben, c'est pour des raisons de sécurité, il faut comprendre.
Oui, le vent.
Ouais. Ouais. L'île est pauvre en ressources naturelles. Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment, ils vivent du tourisme, de la pêche. Et,
Mais on aurait pu penser que, en parlant d'électricité, les éoliennes auraient pu fournir. Mais ça, c'est venteux, là.
Oui, c'est venteux. Il y a des éoliennes, mais ça prend quand même... avec toute la consommation d'électricité aujourd'hui, tu sais, ça devient...
insuffisant. Okay.
Ouais. OK. Nouvelle-Écosse, maintenant. Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, j'ai perdu ma feuille. Ah, elle est ici. En latin, ça vient... le nom latin, Nova Scotia.
Ah, OK.
Bon. Ouais. Donc, Nouvelle-Écosse.
On connaît.
Ouais. Les Premières Nations connaissaient sous le nom de Micmacs. Mm-hmm. Les Français l'ont appelé l'Acadie. Et les Britanniques, New Scotland, qui signifie Nouvelle-Écosse.
Et on sait pourquoi les Français l'ont appelé l'Acadie?
Non, j'avoue que ça, c'est une... Je ne l'avais pas dans ma documentation. L'Acadie, non. Bonne petite recherche.
Et la capitale, c'est Halifax ou Sydney?
Halifax.
OK.
Ben, Sydney est une ville importante. Mm-hmm. Dans les principales villes, là, vous avez, à Halifax, capitale, vous avez Sydney, Mahone Bay, Baddeck, Dartmouth. Alors, la Nouvelle-Écosse...
On croirait qu'on parle de plusieurs pays en même
temps. Oui, 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 ben oui, oui. Elle est bordée par le Nouveau-Brunswick à l'est et elle couvre une superficie de 55 284 km². C'est la deuxième plus petite province en superficie après l'île du Prince-Édouard. Ah ça, j'y allais comme ça, là. C'est de la petite au plus grand. Pardon. Pourquoi on l'a appelée Nouvelle-Écosse? C'est que en 1620, le roi Charles Ier d'Écosse et d'Angleterre, il a envoyé une troupe d'Écossais pour y fonder la colonie, et il l'a nommée en l'honneur d'un roi d'Écosse, Jacques Ier, qui avait déjà régné, qui pour lui rendre hommage. À ce moment-là, la Grande-Bretagne l'Écosse était réunie avec la Grande-Bretagne. La ville d'Halifax, la capitale, a été fondée en 1749 par Edward Cornwallis après la restitution de la fameuse forteresse Louisbourg.
Ben c'est ça.
Oui.
Mm-hmm. Je veux pas te piéger du tout,
non.
Mais parce qu'on parle d'un camp ou d'une sorte de fondation en 1604 du côté de la Nouvelle-Écosse. Uh-huh. Je me demande si c'est pas Louisbourg. Mais là, les Britanniques se seraient installés aussi en 1620?
Oui, c'est parce qu'il y a eu des parties séparées. Il y avait... Les Français ont construit Louisbourg pour protéger la partie qu'ils voulaient protéger.
Okay.
Et il y avait l'autre partie que les Anglais avaient. Alors, c'est ça. Parce que là, c'est ça. Il y a eu la déportation des Acadiens qui est arrivée. Alors, et c'est toute une stratégie parce que Louisbourg a été conquis, perdu... reconquise par les Français et reperdue finalement aux mains des Britanniques. Uh-huh. Alors, c'est ça, le Louisbourg devait protéger l'entrée du golfe Saint-Laurent. Et, mais avec les guerres, parce qu'il y a eu des guerres, la guerre de succession d'Espagne, qui s'est terminée en 1713. Après ça, la guerre d'Augsbourg et la guerre de Sept Ans.
Ouais.
Où, là, qui a été défini, où on a définitivement perdu la colonie.
Ouais.
Pardon. La présence des Acadiens, francophones et catholiques sur le territoire de la future colonie britannique posait, aux yeux des autorités britanniques, un problème.
Ben oui.
Et ça, c'est vraiment une tragédie dont il faut parler. En 1750, un bon nombre de colons protestants, la plupart des Allemands, furent attirés en Nouvelle-Écosse. Alors donc, ça a fait une rivalité. Et à partir de 1755, au début de la guerre, justement, de 7 ans, les Britanniques décidèrent de déporter les Acadiens dans les colonies américaines, en France, en Grande-Bretagne, tandis que plusieurs ont pris la fuite dans les forêts de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et d'autres se sont retrouvés en Louisiane. Et alors, c'est ça qui est tragique dans cette chose-là, et ça a marqué la culture acadienne. Au niveau politique, la Nouvelle-Écosse a été la première colonie de tout l'Empire britannique, ça c'est remarquable, à avoir un gouvernement responsable, c'est-à-dire que vous aviez un gouverneur. Mais le gouverneur était comme le gouverneur général aujourd'hui. Il devait simplement signer les lois que l'Assemblée votait.
Ouais.
Alors, il ne pouvait pas du tout s'opposer. Il n'y a pas de droit de veto, rien. Et c'est dans tout l'Empire britannique.
Wow, on se demande pourquoi alors accéder à la Confédération quand tu as un statut comme celui-là. Et pourtant, ils font partie des 4 premières provinces.
Oui, absolument, absolument. Ben, ça faisait simplement que... continuer sur l'air d'aller où ils avaient déjà ça. Alors, ils devenaient à ce moment-là membres du Canada, d'une force économique et politique plus importante. Ouais. Mais pour eux, politiquement, ça n'a pas changé grand-chose. Ben non. Pardon. Elle est aussi en point, ça, je ne savais pas, en point dans les communications, parce que dès février 1849, le Pony Express de la Nouvelle-Écosse permet de gagner une journée dans la réception des nouvelles d'Europe qui arrivent à Halifax via un système de cavaliers qui se relaient pour traverser la province de part en part jusqu'à Digby, où un steamer amène les nouvelles au terminus du télégraphe américain de l'autre côté de la baie de Fundy. Ah, c'est vraiment un point de chute pour
Pony Express.
C'est joli, ouais. Ben, ça fait. Il y avait dans le. Là, je m'en vais un peu plus loin, mais aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, un Pony Express, mais c'était pour les diligences.
Ouais.
Ça, on en parlera peut-être un autre tantôt. Donc, l'économie de la Nouvelle-Écosse, ben, elle est c'est une économie mixte de services d'industrie. Secteur primaire, ben, occupe une place importante dans l'économie locale, avec notamment les exploitations forestières, agricoles, pâte et papier aussi. Les principales productions agroalimentaires sont celles du lait, de la pomme de terre aussi, et de la pomme. Les pommes sont apparemment très appréciées.
De bonnes universités également.
Hein? Oui, université absolument. Ah, oui. Halifax, il y a 3 universités à Halifax. Il y a St. Mary,
Dalhousie,
puis une autre là, dont j'ai oublié le nom. Moi, j'ai demeuré à l'université St. Mary. Les chambres étaient... je dormais là pour $50 par jour avec petit déjeuner inclus.
Mon Dieu, c'est le prix du pont.
Oui, absolument. Ben oui, ça m'a coûté $47 pour avoir cette. Mais c'est parce qu'on était à ce moment-là en fin de session universitaire et il louait aux touristes. Alors, c'est vraiment. Alors, vous avez également les pêches, homards, pétoncles, tout ça. Le sous-sol est très riche en fer. Alors, allons au Nouveau-Brunswick si on veut avoir le temps. Le Nouveau-Brunswick. Hein?
Plus que 2 minutes.
Ah, 2 minutes! Au secours, au secours, au secours, au secours. Nouveau-Brunswick, nommé en l'honneur du roi d'Angleterre, George III, qui était également duc de Brunswick en Allemagne.
Ah,
les souverains britanniques venaient d'Allemagne à une certaine époque, et il était duc de Brunswick, donc on appelait ça Nouveau-Brunswick, simplement. Capitale, Fredericton. Les plus grandes villes sont Moncton, Saint-Jean, Edmundston. Edmundston, c'est la plus grande ville unilingue francophone du Canada à l'extérieur du Québec. L'économie du Nouveau-Brunswick est dominée par l'exploitation forestière depuis le début du 19e siècle. L'économie lourde est centrale à Saint-Jean. L'économie de Fredericton est dominée par les services gouvernementaux.
Est-ce qu'ils font de la patate aussi?
Oui. Les produits laitiers et la patate. Décidément, on s'en sort pas dans les maritimes. La patate. Les pommes de terre représentent 45% des revenus agricoles.
Ah oui.
Alors que le bœuf, le volaille et le porc comptent pour 30% des grandes cultures de fruits et de légumes et 7,5% des œufs. Pommes de terre représentent la principale exportation agricole de la province qui fournit 20% de la production canadienne.
OK.
Vous avez ensuite la pêche, qui était en déclin jusqu'au début des années 60, connaît ensuite un second souffle grâce à la modernisation des navires et des méthodes. De plus, bien, l'extension des limites de zones de pêche à 370 km des côtes a beaucoup profité à cette industrie. Vous avez. Les milieux naturels sont très protégés en Nouveau-Brunswick. C'est surprenant. Écoutez, ils ont 34 parcs nationaux, 71 zones naturelles protégées.
34?
Oui. 800...
Est-ce qu'ils sont grands, ces parcs?
Oui. 800 zones hivernales pour les chevreuils. 400 000 hectares de zones tampons. C'est vraiment... Vraiment.
C'est surprenant.
Ah oui, c'est moi, quand j'ai découvert ça.
Parce qu'on n'aura pas le temps, mais la semaine prochaine, tu peux nous parler des Brayons, des Anglo-Néo-Brunswickois et des Acadiens.
Oui.
Avant de poursuivre, là, qu'on
les
puisse
Brayons.
Terminer. Oui, oui. On y revient la semaine prochaine. C'est votre assignation, Anne-Laure. Merci beaucoup.
Merci, Luc.
Jean-Sébastien, à la semaine prochaine.
Merci tout le monde. Merci Clotilde à la réalisation et Serge en chronique histoire. À bientôt.